franceinter.com. CO2 mon amour, avec l'énergiemoinscher.com, site d'information sur les primes énergie de Leclerc.
Ça se reconnaît en écologie.
Encore des mouvements de colère des routiers en France
qui protestent
contre le prix élevé du gazole.
Tu vas faire les bagnoles ?
Peut-être !
Le bonus automobile plombe les comptes de l'État.
En amour.
Oui, il y a urgence à agir pour sauver la planète.
Denis Chessou.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie. Une émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite, avec Michel Thomas et Roland Mahé à la technique aujourd'hui. Et assisté de Stéphane Combe, c'est Fabrice Laigle qui réalise l'émission. LGV, mon amour. Et oui, cette semaine, nous allons foncer à 300 à l'heure. Contrairement à ce que je vous susurre en début de chaque émission. Alors, ce garçon déraille-t-il? Vu le sujet TGV qui suit, il ne vaut mieux pas. Son Excellence Ferroviaire, en ce jeudi 8 de septembre de l'an de grâce 2011, a invité tout le gratin de ses sujets à cravate, mais aussi l'humble population à plumes et à poils, chevreuils, renards, blaireaux, chouettes, hiboux, bus, crapauds avec ou sans bave, libellules, ainsi que les sangliers qui auront survécu aux algues vertes. Alors, invité, oui, par qui? Bien par Réseau Ferré de France, à l'inauguration de la ligne à très grande vitesse Rhin-Rhône, section Dijon-Belfort, qui, à la vitesse d'une balle de chevrotine, va traverser nos marches de l'Est pour filer à la rencontre du reste de l'Europe. L'humble population applaudit des ailes et des sabots à cette marque d'égard et de respect. Hommage sera enfin rendu aux millions de victimes inconnues du culte de la vitesse et de l'inexorable marche du progrès. Car, et c'est assez rare pour devoir le signaler, d'importantes compensations sont garanties en faveur de l'environnement. 51 passages aménagés pour la petite faune, 27 mares de reproduction créées. Et oui, parce que notre pays est certes championne d'Europe de la fécondité par femme, mais nous encourageons aussi les salamandres et les grenouilles. 33 km de protection acoustique. Alors sûrement conçu pour éviter aux riverains d'entendre les conversations téléphoniques absolument pitoyables des voyageurs dans les TGV. Et puis aussi 25 hectares de zones humides compensées. Alors compensées, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien comprendre qu'on consomme du terrain lorsque l'on construit une LGV. En général, c'est une bande d'acquisition de 100 mètres de large. Et puis on va remettre ailleurs aussi, en France, en état, des terrains qui sont un peu animés. Bon, tout ceci n'est pas une générosité de l'opérateur, mais juste une obligation légale de 1976 adossée à des directives européennes. N'empêche, même si l'équivalent en surface d'un département est urbanisé, LGVisé tous les 6-7 ans en France et que ça n'affole personne, RFF a dépassé ses obligations légales. Avant, bon, RFF, comme les opérateurs d'infrastructures linéaires, se fichait pas mal de l'égodiversité. Ils connaissaient pas le mot. Mais cette époque est révolue. Les ingénieurs invincibles des grandes écoles durent écouter des thésards et des naturalistes du muséum. Des embauches dans l'univers associatif ont eu lieu. Et en plus, le Grenelle de l'environnement, avec la notion de trame verte, a accéléré le mouvement. De là à dire qu'une LGV est un corridor biologique, une liaison entre les biotopes, on peut en discuter encore longtemps. En tout cas, la prise en compte de la biodiversité, c'est pas loin de 10% du coût total d'une infrastructure. Mazette, sourit le hérisson amoureux qui ne finira plus en pâté de campagne en cherchant à traverser des voies pour rejoindre sa belle pimprenelle qui habite en face de l'autre côté de la voie. C'est de la balle, acquiesce les chauves-souris en cette année qu'il aurait dédié. Oui, parce que vous avez des dispositifs d'évitement à base d'ultrasons qui leur permettront aux chauves-souris de ne pas se transformer en autocollants sur le pare-brise d'un TGV. C'est quand même sympathique. Et au-delà de cet étourdissement sociétal ou au culte de la vitesse sans fin, une chose est sûre, la grande gagnante, c'est la hausse des prix immédiate des terrains et des maisons. Alors le petit peuple des hérissons, des belettes, des geais, des chênes, des grenouilles, des lapins s'inquiète du prix des terriers, des gîtes, des nids autour de la ligne. Ou bien peut-être va-t-il se lancer lui aussi dans la promotion immobilière. Et à présent, nous retrouvons qui? Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Vous prenez le TGV vous aussi maintenant?
Ah oui, je vais parler en TGV, oui, ça va deux fois plus vite et ça coûte deux fois plus cher.
C'est ça.
En gros, c'est ça, quoi.
Oui, okay. Alors maintenant, parlons aussi d'une autre actualité assez rapidement, celle du professeur Pellerin. Donc c'était cet homme qui avait été très précautionné au moment de Tchernobyl, on s'en souvient. Procès, donc là, résultat non lieu.
Oui, à l'époque, nos voisins luxembourgeois et allemands avaient interdit la consommation des légumes, du lait, etc., qu'on craignait les retombées radioactives. Et puis nous, on disait le contraire. C'était très drôle. Vécu à Metz, c'était très drôle à voir. Alors j'ai connu M. Pellerin parce qu'il est venu en Moselle défendre la centrale de Cattenom. Je l'avais trouvé quand même très excessif parce qu'il avait dit qu'il était impensable qu'il y ait une catastrophe nucléaire. Ça, c'est pas possible. Bon, ça, il s'est trompé. Bon, j'aurais pas voulu qu'on le mette en prison, c'est un vieil homme et on doit pas mettre les vieux hommes en prison, mais il aurait eu une petite condamnation avec sursis pour quand même montrer qu'il y a une justice. Parce que c'est vrai qu'il y a plus de cancers de la thyroïde. On le sait. Alors on dit on n'a pas pu faire le lien. Mais est-ce qu'on fait le lien entre tout ce qui produit des cancers? Bien sûr que non. Il y a de plus en plus de cancers. Il y en a 350 000 nouveaux par an. On ne fait pas les liens. On ne sait pas. Mais ils sont là quand même.
Et on rappelle qu'on a là-dessus quand même une très mauvaise épidémiologie. On le sait. Simplement 20% aujourd'hui, on va dire, des régions tiennent un registre sur ces cancers. Donc on n'en sait pas plus.
Non, on ne sait pas plus. On ne peut pas faire d'épidémiologie, ne serait-ce que pour cette raison-là. Oui. Alors on va faire de l'épidémiologie pour les cancers de la prostate et du sein chez les paysans. Et d'une manière plus générale, pour tous les cancers chez les paysans, dans, je crois, 12 départements qui ont des registres du cancer, précisément. Ouais, mais on aura les résultats de cette étude épidémiologique très fine seulement en 2015. Voilà, c'était quand même Tchernobyl très, très grave. Et il y a quand même eu des milliers de morts. Alors quand on dit qu'il n'y a pas de mort à Fukushima, pas la semaine prochaine, mais les cancers, ça met du temps à venir. Et après, ça s'accumule pendant des temps très 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 longs.
Alors on écoutera Corinne Lepage donc, tout à l'heure sur ce thème. Jean-Marie, une petite nouvelle, alors, j'allais dire végétale, sympathique, actualité, parlez-nous des nefs là.
Des nefs, bah oui, c'est... quand on dit des nefs, on dit c'est insignifiant.
C'est ça.
Ça veut rien dire. C'est un fruit.
C'est presque un non-lieu.
Oui, c'est presque un non-lieu, oui. C'est un fruit étonnant parce que on est tout à fait sûr qu'il soit originaire de l'Europe occidentale, puisque Jules César l'aimait bien, il aimait bien les nefs, il les a ramenés en Italie après sa campagne en Gaule. Et c'est un fruit étrange, ça ressemble en gros au cynorhodon des rosiers, vous savez, les gratte-cul. Et puis ça a 5 noyaux, ce qui est très rare, un fruit à 5 noyaux. Et puis, il faut surtout pas le consommer mûr, parce que quand il est mûr, la peau est jaune et il est dur comme du bois. Alors, on peut le consommer que quand il est blette. C'est le seul fruit qu'on doit consommer, blette. Et il contient des tanins, de sorte que c'est bon pour les maux de ventre, pour les diarrhées. On en a un
effet. C'est pas très sexy.
Non, pas vraiment.
C'est un médicament.
Quoi. Oui. Et le goût des nèfles, c'est il faut d'abord peler. Quand il est complètement bled, c'est-à-dire que la peau est brune, il faut le peler. Après, il faut enlever les noyaux. Alors après, il reste un peu de pulpe, dont on dit, c'est le grand pharmacologue Leclerc qui dit ça, elle a un goût douceâtre, vineuse, légèrement acidulée et très neutre. Voilà. C'est pour ça qu'on dit des nefs.
Bon, c'est très bien. Et sur le moment, c'est parce que c'est un peu d'actualité, c'est dans la saison. Là.
Oui, oui, tout à fait. Bientôt, ça va être le moment.
Et donc, mûrissant.
J'aime bien. J'aime beaucoup. Oui. Les noyaux sont très, très durs.
Alors, mûrissant toute l'année, Jean-Marie Pell, qu'on va retrouver très, très vite et sans doute la semaine prochaine. Au revoir, Jean-Marie.
Au revoir, Denis. Au revoir à tous.
À suivre donc Fukushima avec Corinne Lepage. Corinne Lepage, donc avocate et députée, qui revient de ce pays.
C'est de mon amour, c'est petite émission qui respire sur France Inter.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Life, I'm running from people who will be.
Que c'est bien Nicolas Gallagher sur France Inter, CO2 Mon Amour, donc choisi par Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur. Deuxième volet, donc, après Jean-Marie Pelt de ce magazine avec Corinne Lepage, donc avocate et députée européenne, et qui a passé donc quelques temps à Fukushima, à Fukushima City, hein, pas sur la zone interdite. De toute façon, il y a 30 km qui sont interdits. On ne parle absolument plus de tout cela aujourd'hui. On a l'impression que c'est fini. Ben non, pas du tout. Que pouvez-vous nous dire, Corinne Lepage?
Qu'est-ce que je peux vous dire sur la centrale? Pas grand-chose, parce que les autorités publiques que j'ai rencontrées, j'ouvre une parenthèse, j'ai eu la chance de rencontrer, même si je suis restée très peu de temps, un grand panel, c'est-à-dire à la fois des vice-ministres de l'Environnement, le sous-gouverneur de la province, une députée, les grandes ONG qui travaillent sur place, les représentants de l'Union européenne et l'association des familles de Fukushima. Donc vous voyez, ça m'a donné une
vision,
un petit peu. Les autorités publiques ne disent pas grand-chose, si ce n'est une chose, c'est que nous sommes en cours de catastrophe. C'est-à-dire que rien n'est réglé. Trois cœurs ont fondu. Probablement, au moins pour le numéro 1, on sait que ça a transpercé l'enveloppe. Jusqu'où, on ne sait pas. Et les deux autres, on ne sait pas. On a des inquiétudes sur les piscines et leur résistance en cas de nouveau séisme important. Il y a des boues contaminées
considérables. Juste que l'on rappelle quel est le rôle des piscines.
Ben, les piscines, elles stockent les combustibles nucléaires. Usagers, mais aussi des non-usagers apparemment. Si on ne les refroidit plus, qu'est-ce qui se passe? Bien, risque d'explosion parce qu'il y a une réaction en chaîne qui se remet en route. Donc c'est très important de refroidir. Deuxièmement, il y a les boues contaminées, dont on ne sait absolument pas quoi faire, dont personne ne veut. Troisièmement, il y a l'eau de mer polluée, puisque c'est de l'eau de mer qui a refroidi les piscines au moment où il n'y a plus d'eau douce. C'est normalement Areva qui doit faire ce travail. Greenpeace dit qu'Areva ne le fait pas parce qu'elle ne peut pas le faire. J'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas. Sur le niveau de la radioactivité, de ce que m'ont dit les familles de Fukushima, pendant un mois, ça a été rien. Quand ça s'est passé, la météo était en rade. Alors on peut comprendre qu'il y avait tremblement de terre plus tsunami, etc. Il n'empêche que les services météo n'ont pas été foutus capables de dire aux gens le sens du vent. Aucune pilule
diode
n'a été distribuée à la population. Aucune mesure n'a été prise, sauf pour ceux qu'on a fait partir. Donc déjà, grande angoisse des familles, évidemment, sur ce qu'elles ont vécu. Pendant un mois, rien. Depuis, au bout d'un mois, il y a une information sur le niveau moyen de la radioactivité. Donc vous avez dans le journal, le Japan Times, de tous les jours, vous avez une carte avec le niveau de la radioactivité. À ceci près que c'est des niveaux moyens par ville, ce qui ne veut strictement rien dire, puisque ce sont des taches de léopard. Troisièmement, vous avez une information sur l'alimentation, mais c'est une information a posteriori. Donc ça ne sert à rien aux familles. Et par-dessus le marché, disons que la préoccupation aujourd'hui des gens que j'ai rencontrés, ce n'est pas tellement d'informer sur l'alimentation, c'est surtout de vendre des produits de Fukushima. On m'a donné un très beau panier de pêche, que je n'ai pas dégusté, parce que je n'en avais pas envie et que les familles m'ont tout à fait clairement dit que c'était contaminé. Et du reste, les limites de doses admissibles ont été relevées parfois jusqu'à facteur 10. Reste ensuite la question de la radioactivité ambiante. Vous savez qu'au Japon, comme chez nous, la norme pour la population, c'est un supplément de 1 millisievert par an par rapport à la radioactivité naturelle. Les Japonais ont changé la norme, là aussi, puisqu'on ne peut pas la respecter. C'est passé à 20 millisieverts. Et ils ont trouvé le pendant du professeur Pellerin, local, pour dire que 100 millisieverts, ça poserait du reste aucun problème.
Eh bien, il aura un non-lieu plus tard, lui aussi.
Ben, exactement. Vous voyez, c'est pour ça que l'histoire est un perpétuel recommencement, malheureusement. Dans ce cas-là, malheureusement. Donc, les gens, évidemment, n'y croient pas du tout. Par contre, les maires se battent en disant, nous, on veut un millisievert pour nos enfants. Donc, de deux choses, vous pouvez vous décontaminer pour arriver à un millisievert, ou bien vous nous donnez de l'argent pour qu'on puisse partir.
Oui, mais là, on est, contrairement à Tchernobyl, on est dans ce qu'on appelle un pays plein et non pas un pays vide. Et on ne sait pas du tout si ces gens-là pourront partir.
C'est pas... Ah, aucune idée.
Oui.
Et probablement non. Il y en a 80 000 qui sont partis. Si on passait de 20 à 10 millisieverts, les autorités publiques m'ont dit que c'était 80 000 personnes qui étaient concernées. Le Japon, c'est un pays qui est quand même assez étroit. 120 millions de personnes, même s'il y a un taux de natalité très faible, un 34, c'est très faible, mais quand même, il y a 120 millions de personnes.
Et il y a beaucoup de montagnes, on le rappelle. Donc,
et il n'y a pas beaucoup d'endroits habitables. Hein. Donc à Tokyo, par exemple, 30 millions d'habitants dans la conurbation de Tokyo, appartements minuscules.
Et on ne voit pas TEPCO non plus payer ce déménagement.
Alors on ne voit évidemment pas TEPCO payer, bien sûr, et l'État japonais n'a pas les moyens non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut un peu de décontamination dans les cours de récréation, apparemment. L'école a recommencé la semaine dernière. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les terres contaminées? Puisque, en fait, la décontamination consiste aujourd'hui à enlever la terre sur 50 cm. Alors, on la met dans la cour avec un sac plastique dessus. C'est l'état de révolte des mères japonaises que j'ai rencontrées qui m'ont surtout demandé une chose, et je vous remercie, Denis Chessou, de me permettre de tenir une promesse, c'est d'en parler. Le silence tue, parce qu'on laisse là-bas ces gens sans rien, sans solution. Mais encore une fois, je n'incrimine pas le gouvernement japonais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout gouvernement confronté à un problème de ce genre aurait le même comportement, parce qu'on ne peut pas faire, ni techniquement, ni financièrement.
Corinne Lepage, maintenant parlons de ce pays quand même avec une économie extrêmement vivante. Comment font-ils avec leur énergie?
C'est extraordinaire. C'est un pays, moi, qui m'a fasciné, le peu que j'en ai vu. Ils ont aujourd'hui 14 centrales qui fonctionnent sur 57. Ils ont à peu près le même nombre de centrales que nous. Ils n'en ont que 14 qui marchent. Donc ça fait une baisse de production électrique massive. Eh bien, il y a une baisse de consommation électrique massive. Oui. Moins 28%. Et certains m'ont même dit que dans la région de... C'est une moyenne pour le Japon, la région de Tokyo, qui est beaucoup plus concernée, puisque les centrales fermées, c'est la région de Tokyo, ça irait jusqu'à entre 35 et 40% de baisse de consommation électrique. Alors, ils font comment? Ils font d'abord des choses simples. Je suis allée au ministère de l'Environnement, il n'y a pas de lumière et il n'y a pas de clim. Mais il n'y a pas de clim alors qu'il y a 38 degrés dehors, chaleur humide. Les industries se sont adaptées, elles font du roulement. Par exemple,
chacun vient prendre son lot d'électricité à tel
voilà.
moment. Oui.
Donc, par exemple, l'automobile ferme le samedi et le dimanche, l'acier, c'est le mardi, lundi et mardi, telle grosse industrie, mercredi, jeudi, etc. Et il roule dans la semaine, de manière à ce que ce qui est produit ne soit pas en concurrence au niveau de la consommation. Et ils sont arrivés à ce résultat. Donc, c'est très impressionnant. Ce que m'a dit le vice-ministre de l'Environnement que j'ai rencontré, c'est que ce qu'il voudrait, lui, c'est en rester à ce niveau de consommation, en espérant arriver à moins 50% en 2020 par rapport à 2011 avant Fukushima, étant entendu que ce qui m'a été dit par tous, c'est qu'ils n'avaient pas l'intention de construire de nouvelles centrales nucléaires.
Ce qui veut dire qu'ils sortent du nucléaire indirectement.
Bah évidemment, si vous n'en construisez plus, c'est que vous en sortez. Alors le débat qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait avec celles qui sont fermées? Ils font des stress tests, ils ont un souci, c'est que les 14 qui marchent doivent s'arrêter en mars 2012, pour la maintenance, puisque les centrales fonctionnent par tranche de 13 mois. Donc en mars 2012, ça ferme. Ça veut dire donc que s'ils n'en redémarrent pas, ils n'ont plus du tout la part du nucléaire. Alors même s'ils sont en train de faire des investissements absolument massifs dans le renouvelable, ils ont quand même un problème. Donc un des vice-ministres que j'ai vu qui est conservateur, parce que leurs histoires politiques sont extrêmement compliquées, lui, il veut que ça redémarre. L'autre que j'ai vu, qui est de la tendance démocrate, n'a pas très envie que ça redémarre. Le débat est là-dessus. Sachant que 84% des Japonais ne veulent plus du nucléaire. Et ce qui est très intéressant, ce qui m'a été expliqué, notamment par les représentants des institutions européennes que j'ai vues sur place, c'est que les 6 premières semaines, il n'y a pas eu de mouvement dans l'opinion publique par rapport au nucléaire. Mmh. Autrement dit, une espèce de soufflet qui retombait par tous ceux qui se disaient « bon, c'est loin, c'est à Fukushima, c'est pas chez moi ». Et puis progressivement, ils se sont rendus compte que le thé était contaminé, que la viande était contaminée. Donc ils avaient des problèmes avec l'alimentation.
Quotidien est touché, que les gens bougent aussi.
Ben voilà. Et donc progressivement, tous les Japonais se sont rendus compte que ce n'était pas seulement les malheureux de la province de Fukushima qui étaient touchés, mais que c'était tous les Japonais. Je suis très inquiète sur le plan de l'épidémiologie. Peut-être que je terminerai là-dessus. Je suis allée à Kiev il y a 6 mois, et à Tchernobyl. Là, je suis allée directement à la centrale. Et puis je suis allée aussi à côté, dans un bled qui s'appelle Ivankov, qui est la première préfecture après la région de Tchernobyl, 30 kilomètres. J'ai vu l'état sanitaire que m'a décrite la directrice de l'hôpital. Il y a cohorte de entre 5 et 6 000 enfants d'aujourd'hui, donc entre 0 et 18 ans. 5 à 6 000 enfants, il y en a 95% qui ont le statut de victime de Tchernobyl, tout simplement parce que le césium et le strontium sont toujours là, même si l'iode 131 n'y est plus, et que ces enfants, ils respirent un air et ils mangent des produits qui sont contaminés. Il n'est pas question que nous, les humains, nous laissions faire la même chose à Fukushima. Nous avons tous, en tant qu'humains, une responsabilité pour que soient connus et évalués, et bien entendu soignés, dans la mesure où on peut les soigner, les victimes de Fukushima. Nous n'avons pas le droit, parce que nous savons ce qui s'est passé à Tchernobyl, d'accepter que la même chose se passe une deuxième fois.
Ce qui est aussi extrêmement intéressant, en revenant sur le problème de la diminution énergétique, il est évident que les Japonais ont appliqué, on va dire, entre guillemets, ce plan mégawatt contraint et forcé, mais donc ils ont dû s'adapter. C'est qu'on en a en fait peu parlé en fait en France.
Pour les Français, je pense qu'ils pensent. Français, on fait un radio-trottoir. Fukushima, bah, c'est réglé,
c'est fini. Oui,
c'est fini. Bon, les gens qui étaient malades, enfin qui étaient contaminés ou irradiés, ils sont sortis. Donc maintenant, bah, ça se gère tranquillement. Et puis le Japon continue avec le nucléaire. Bah, c'est tout faux. C'est tout le contraire. Parce que la France est le pays nucléaire que nous connaissons. Parce que nous avons décidé d'être les commis voyageurs de cette industrie. Eh bien, nous ne voulons pas que cela se sache. Et donc, il n'y a pas ou peu d'informations qui sont données là-dessus. Et puis, mis à part vous et quelques autres, je ne peux pas dire que non plus que les journalistes français soient passionnés par cette affaire-là. C'est plus intéressant de parler des petites phrases.
D'aller du côté de la place des Vosges.
Oui, et le retour de M. Strauss-Kahn.
Mais sur France Inter, on s'intéresse à Fukushima. Et lundi, vous retrouverez dans l'émission dans la baie d'où le téléphone sonne que vous connaissez. Eh bien, six mois après, avec Nathalie Fontreuil, il y aura aussi Corinne Lepage et donc d'autres invités. Ce sera sur France Inter ce lundi. Ceci n'a rien à voir avec le sujet précédent, les causes perdues. Bernard Lavillier, avant d'écouter Sylvain Tesson qui nous emmène du côté du lac Baïkal.
Plus ceux qui luttaient ensemble, disparus, les journées se ressemblent. Tous ces hommes sans femmes, des quatre coins du monde, seuls dans les dortoirs, comptent les secondes. Partis si loin pour ne pas réussir, avoir un toit pour dormir. Les poings levés, le grand capital, ça fait sourire un peu mal. Portez-les, vos idées, vos visages guerroyés. Les moulins, les nuages, n'oubliez rien de vos rêves fous, tenez-les. Portez-les jusqu'au bout. Tu ne viendras plus tourner à la Bastille le soir du grand soir avec ta famille. Coudes serrés pour bousculer le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as perdu ta front. Le temps passé à chanter dans les rues pour les causes perdues. Solidaire et marginal, ça fait sourire un peu mal.
Les moulins, les nuages.
Tienes que seguir
CO2 Mon Amour, le samedi à 14h avec Denis Chessou.
Et oui, avec la voix de Nathalie Fontrelle qu'on va retrouver dans quelques instants, ce sera pour l'actualité. Mais auparavant, donc le troisième volet dans cette émission avec Sylvain Tesson qui nous revient avec un ouvrage qui s'appelle « Dans les forêts de Sibérie » aux éditions Gallimard. Autrement dit, ma cabane au bord du lac Baïkal, 6 mois tout seul. Bonjour Sylvain Tesson.
Bonjour Denis.
J'ai envie que vous parliez, s'il vous plaît, de votre amour de la Russie. Vous voyagez toujours vers l'Est, pas forcément vers l'Ouest, pourquoi ?
Pas toujours, parce qu'il y a un mois, j'étais au Yémen, sur l'île de Socotra. Mais il est vrai que j'ai quand même une espèce d'attirance, de fascination pour la Russie et pour les Russes. Pour la Russie, parce que c'est un territoire immense, diffuseau horaire, et quand vous avez diffuseau horaire sous vos pas, ça donne beaucoup de possibilités d'aventures et de découvertes et d'explorations. C'est quand même une forêt, la taïga, où vous pouvez être à 15 jours de marche d'une route. Voulez-vous me dire où est-ce qu'en Europe occidentale, vous pouvez un jour vous trouver à 15 jours de marche d'une route ? Nulle part. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les Russes sont des gens qui sont qui ont une extravagance, qui ont un rapport à l'excès, qui ont un mépris absolument total du lendemain. Qui pour eux, demain nous serons morts, demain est une construction, une imposture de l'esprit, l'espoir est une insulte au moment que l'on vit, et donc ils jettent toute leur force et toute leur énergie dans la célébration de l'instant, et ça moi c'est quelque chose qui résonne beaucoup dans mon cœur.
Et entre février et juillet 2010, vous êtes parti du côté du lac Baïkal, vraiment en ermite, dans votre cabane. Vous avez fait de l'investissement ?
Oui, c'est ça, j'ai investi dans l'immobilier.
Oui.
Enfin, c'était une cabane de 3 mètres sur 3, dans la forêt russe, au bord du lac Baïkal, sur la rive occidentale du lac, à 8 jours de marche d'un village, sans route. Puisqu'on ne pouvait accéder à ma cabane que par la glace en hiver pendant 2 mois quand le lac est gelé, ou bien par l'eau en été en bateau quand le lac est dégelé. Et je n'avais pas de voisins, j'avais des gardes de chasse, des inspecteurs d'une réserve naturelle qui se trouvaient à 20 ou 25 kilomètres de ma cabane. Et donc j'étais dans la solitude absolue. Quelques amis sont venus quand même me voir plusieurs jours, ce qui rompait un peu le cours de mes heures solitaires. Et j'ai voulu faire là une expérience de l'ermitage.
Déjà quelques notions sur ce lac. Vous dites que ce lac est un pays. On dit que c'est le plus grand lac d'eau douce du monde aujourd'hui.
Oui, alors moi je suis nul en statistiques parce que je me méfie beaucoup des chiffres, mais je crois que c'est 700 km de long, 1,5 km de profondeur, 80 km de large, 21 000 km3 d'eau, d'eau douce, hein, je précise, potable. La superficie de la Belgique, donc vous voyez, enfin, les chiffres ne veulent rien dire, mais on voit juste là que c'est la statistique de la démesure. C'est un lac qui contient 20% des réserves d'eau douce libre du monde, et c'est un lac qui est encore assez intouché, peu pollué, parce que, pour une raison très simple, c'est que d'abord il est assez inaccessible, il se trouve tout là-bas, au sud de la Sibérie, difficile d'accès, et puis il est enclavé. C'est un lac qui est enchâssé dans des réseaux, dans des massifs, dans des systèmes montagneux qui culminent à 3000 mètres d'un côté, à 4000 de l'autre. Donc tout ça fait que son inaccessibilité empêche les hommes de bétonner ses bords.
Et vous rappelez très justement que le recours aux forêts a toujours été dans le temps une espèce de remède aux maux de l'existence. C'est-à-dire que les forêts ont toujours accueilli les gens en temps de crise ou en temps de guerre.
Oui, réellement et symboliquement. Réellement parce que c'est vrai que quand il y a le trouble vient de la ville. Puisque le trouble vient de la multitude, le trouble vient des mots. Que génère l'entassement dans les villes. Et du coup, c'est vrai que quand on assiste à des émeutes, on se retranche dans la forêt. D'ailleurs, ça s'appelle le maquis. On va dans la résistance, on prend le maquis. La forêt est toujours accueillante pour le rebelle. Et puis symboliquement, on a nos forêts intérieures. La forêt, c'est le domaine du silence, c'est le domaine du retrait, c'est le domaine de la régénération aussi, puisque la forêt se pousse dessus, pour parler un peu vulgairement.
Donc, qui est un véritable exemple de développement soutenable pour le coup.
Parfaitement, soutenable.
Pas de déchets,
autarcique, intérieur, oui, bien sûr. Et puis produisant elle-même la compensation du carbone qu'elle recrache. Enfin, on est là dans un système parfaitement équilibré, jusqu'au jour où le bûcheron arrive avec sa cognée.
Vous refusiez de chasser Sylvain Tesson pour vous nourrir ?
Oui, pour deux raisons. L'une technique, c'était que j'étais dans une réserve naturelle. donc où la chasse était interdite. Et puis là-bas, on est en Russie. Quand un chasseur ou un braconnier arrive en dehors de la période de la chasse, on lui dresse pas un procès-verbal en lui disant « Excusez-moi, monsieur, c'est interdit ». On le dézingue. Les choses se passent parfois là-bas un peu radicalement. Et ceux qui ont vraiment, véritablement un souci de faire respecter la loi dans les forêts, donc les gardes-chasse, n'y vont pas de main morte. Enfin bref, je ne chassais pas pour cette raison-là. Et la deuxième, c'est que je n'aime pas la chasse, moi.
Alors, vous avez aussi observé quand même de ce réchauffement climatique. Hein. Qu'est-ce que vous avez pu voir au bord de Sac Baïkal ?
Alors, il est un fait que dans le continent de la Sibérie, la continentalité provoque une inertie qui fait que les manifestations du changement climatique sont visibles, mais beaucoup moins spectaculairement que sur les côtes régies par les systèmes océaniques qui, là, entraînent évidemment des différences de paramètres beaucoup plus fortes. Il n'y a pas plus tard que 10 jours, j'étais dans la ville la plus froide du monde pour faire un reportage. J'étais à Yakoutsk, moins 50 degrés.
Pour expliquer aux gens, Mout dans le Jura, c'est Acapulco à côté.
Ah ben c'est ça. Là-bas, donc moins 50, les enfants vont à l'école, les trains fonctionnent, les avions décollent et atterrissent, enfin la vie. Les gens font des choses ordinaires, mais dans des conditions d'hostilité profonde que n'éprouvent que les grimpeurs de l'Everest ou les marcheurs du pôle. Sauf que là, c'est Madame Tout-le-Monde qui va faire son marché, en plein air d'ailleurs, avec la viande qu'on découpe à la scie sauteuse. Enfin, tout ça est très impressionnant. Mais les météorologues disent quand même que même là-bas, au cœur de la Yakoutie, dans le continent sibérien, on remarque une baisse de 1 ou 2 degrés de la température, ce qui prouve que les changements climatiques réussissent à pénétrer jusqu'à l'intérieur des continents, mais évidemment avec des manifestations beaucoup plus subtiles et donc on ne les sent pas vraiment. Il faut recourir aux mesures scientifiques pour les sentir, et d'ailleurs il y a des milliers de stations météorologiques sur le territoire russe, construites, en fait elles avaient été construites par Staline pendant l'époque soviétique, et elles sont un formidable outil aujourd'hui pour mesurer les conséquences du changement climatique. Il faudrait envoyer en stage de rééducation mentale tous les révisionnistes climatiques qui, d'une plume allègre, contestent l'évidence.
Vous êtes parti là-bas, obligatoirement vous vouliez prouver quelque chose. C'était pas simplement que pour de l'écologie pure que vous êtes parti sur le lac Baïkal. Comment vous êtes revenu ?
Mais si, c'était pour de l'écologie pure et pour l'écologie de l'âme. C'était parce que je voulais d'abord conformer mes idées avec mes actes. Parce qu'il y a un moment où c'est vrai que ça va bien de parler de décroissance, de sobriété, de simplification de la vie, de tentative d'intégrer en soi toutes les conclusions que l'on tire de la contemplation du monde. Et puis de faire tout ça en restant dans une ville. Il y a un moment où la contradiction avec vous-même devient un peu difficile à vivre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement vivre de discours. Il y a eu un jour où je me suis dit, j'aimerais bien quand même une fois dans ma vie, avant 40 ans, passer 6 mois en ermite, quoi, en vivant avec, là pour le coup, une empreinte carbone. Enfin, j'aime pas beaucoup ce mot parce que c'est pas un mot, quoi. Mais en laissant le moins de traces possible. Et comme un troll qui glisse sur la lande norvégienne et son pas laisse à peine une empreinte dans la bruyère. Enfin, moi, je voulais faire ça au sens symbolique du terme. La deuxième chose, c'est que je voulais vivre dans le silence, le froid et la solitude. Et je pense que le silence, le froid et la solitude seront les trois produits du luxe du monde de demain. Parce que notre monde devient de plus en plus bruyant, de plus en plus rapide, de plus en plus surchauffé, de plus en plus peuplé. Et vivre dans les bois, seul, devant un spectacle de splendeur, c'est un luxe inouï. Puis la troisième raison, c'est que il me plaisait de réconcilier dans la cabane. Je trouve que c'est très beau cette idée. C'est une idée qui vient du géographe Élisée Reclus, qui est dans les années 1900.
Anarchiste aussi.
Un grand anarchiste, prince anarchiste et prince géographe. Élisée Reclus a dit une chose superbe. Il a dit finalement, peut-être que la solution, c'est de réussir dans les sociétés à réconcilier l'archaïque et le civilisé. Un jour, j'ai vu cette phrase, je me suis dit, mais mon Dieu, la cabane est peut-être le laboratoire où réconcilier l'archaïque et le civilisé. C'est-à-dire, vivons très archaïquement. Donc, je pêchais, j'étais obligé de couper mon bois, j'allais puiser l'eau dans le lac en faisant un trou dans 1 mètre de glace. Je vivais archaïquement, je vivais selon mes besoins et ma nécessité. Mais j'avais pioché dans le magasin de la civilisation quelques avancées qui ne polluaient pas, des livres, des cigares, un peu de musique. Et du coup, j'essayais de faire de ma cabane le lieu, le carrefour où je réconciliais le bonheur de vivre très primitivement, mais les plaisirs les plus délicats.
On sent que vous êtes qu'il y a entre l'ascétisme et l'ivresse?
Mais l'ascétisme est une ivresse, l'ascétisme est révolutionnaire. On arrive à l'ascétisme quand on a décidé de faire la révolution, mais pas de changer le monde en faisant des doctrines et en agitant des drapeaux dans la rue, en croyant qu'en mettant des mots sur les choses vont changer. Non, il faut d'abord faire la révolution en soi. Et pour faire la révolution en soi, il me semblait que la cabane était un bon endroit où se déshabiller de toutes les scories de la ville et de toutes les mauvaises habitudes, de tout le gras mental que l'on prend. Et moi, j'avais envie de tailler dans le sein doux des habitudes.
On ne parle pas d'écologie forcément là-bas, c'est-à-dire qu'on le vit, c'est-à-dire qu'on est vraiment en relation directe avec la nature, on ne se pose pas la question. Quoi.
Ben, on parle d'écologie de toute façon quand il y a un problème. Alors, c'est sûr que quand on vit dans une forêt... Et moi, mes voisins, donc ces gardes-chasse qui étaient espacés entre 20, 30 et 50 kilomètres de moi, qui étaient des inspecteurs forestiers. Effectivement, eux, ils tirent un cerf une fois tous les 2-3 mois, ça leur fournit la viande pour l'hiver, ils pêchent un peu, enfin, ils vivent vraiment dans une sorte d'harmonie parfaite, d'équilibre magnifique, et c'est évident qu'ils ne sont pas concernés par les problèmes d'écologie, qui sont la réponse apportée à un dysfonctionnement.
Vous voyez, la géographie s'amène à tout, parce qu'au départ, Sylvain Tesson est géographe, il a fait ça pour rassurer ses parents, et puis aussi pour appréhender le monde. Donc cet ouvrage s'appelle « Dans les forêts de Sibérie » chez Gallimard. Et merci à Fabrice Lagle pour sa réalisation à la fois délicate et tout à fait pertinente pour enrichir donc les propos de Sylvain Tesson. Il nous reste encore, bah oui, ça magazine, il nous reste encore une page. Ah bah attendez, et puis elle est là, elle piaffe. Oui.
Les oiseaux. Dans la oui, charmille.
Oui, voilà, c'est joli, mais là, l'actualité de l'actualité de l'environnement, mais il faut l'abattre.
Voilà, bonjour Nathalie Fontrelle.
Bonjour Denis.
Donc du lac Baïkal à ce merveilleux studio, il n'y a qu'un pas avec vous. Et c'était donc la rentrée des classes cette semaine, donc l'occasion pour France Nature Environnement d'évaluer le prix du cartable vert.
Vert, mais plus cher. FNE a comparé le panier premier prix au panier écolo. Eh bien, acheter vert, ça revient à plus de 58 euros contre moins de 17 euros pour une sélection de produits classiques.
Ça va pas encourager les gens, ça. Oui.
Non, avec des écarts encore plus grands, c'est le cas du stylo bille, vous savez, celui qui contient du carton recyclé,
oui.
24 fois plus cher que le stylo en plastique.
Alors on peut peut-être espérer, on va se dire ça, les produits verts sont plus chers mais plus robustes.
Sans doute, mais il faut aussi les trouver parce qu'ils sont noyés au milieu des autres produits et puis certains sont carrément absents.
Oui.
Le protège-cahier en carton par exemple, bien plus résistant que son équivalent en plastique, eh bien vous ne le trouverez pas dans les rayons. Et puis il y a aussi l'impossibilité de réparer un objet.
Ah.
Le taille-crayon,
oui.
Moi j'ai fait l'expérience. Vous avez remarqué, la lame est dévissable. Donc
vous avez encore des crayons, vous?
Bah oui.
Très bien. Ok.
et des gommes.
Et des gommes. Ah.
Donc, comme cette lame est dévissable, a priori, on peut trouver des lames de rechange dans le commerce. Eh ben non.
Eh ben non. Youpi. Et les emballages?
Eh bien, lorsque vous achetez le panier premier prix, vous vous trouvez devant une montagne de plastique. Si vous achetez vert, eh bien, vous jetez du carton recyclable, sans doute. Mais là aussi, FNE estime que les fabricants pourraient faire un petit effort pour éviter les suremballages.
Bon, on n'est pas encore sorti de suremballage. Restons dans le domaine de la consommation. Vous en avez parlé, Nathalie, avec la publication du 8e rapport d'Ethicity pour l'ADEME, les Français et la consommation responsable.
Eh bien, c'est pas gagné. Si les Français se disent toujours préoccupés par l'environnement, la crise économique est passée par là. Alors, entre ceux qui voudraient bien, mais qui sont contraints par un budget serré, et ceux qui se moquent totalement des conséquences de leurs actes d'achat sur la planète, la consommation verte a un peu de soucis à se faire. Écoutez Elisabeth Pastor-Rice, présidente d'Ethicity.
On a 35% de la population qui est dans le déni, qui peut rentrer quand même, hein, ils s'en fichent, mais si quelqu'un a la mode, une star, ou changer de chauffage, ou de voiture, d'avoir une voiture hybride, c'est quelque chose qui fait partie de leur statut, ils iront. C'est possible de les faire changer, parce que c'est ceux qui ont le plus peur des pénuries d'eau, d'énergie, c'est là où ils sont surreprésentés. Or, on sait très bien en psychologie, souvent, que le déni, c'est lié à la peur, et puis qu'après, on peut ouvrir des portes. Donc, il faut juste ouvrir les portes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette population a plutôt tendance à s'accroître. Et puis, elle est aussi, de toute façon, dans l'idée du court terme. C'est-à-dire que la priorité, c'est l'économie et le développement durable. C'est pas pour tout de suite, quoi. Traitons les sujets les uns derrière les autres. Et c'est d'abord la crise économique et l'argent qui structurent notre société.
Il y a aussi ceux qui veulent mais qui ne peuvent pas.
Ah, alors ça, c'est 25% cette année. Vrai problème de pouvoir d'achat, réduction de budget. Ils ont envie et ils pensent vraiment aux générations futures.
Bon, Nathalie, je vais faire une émission sur consommer immédiatement, prenez ce qu'il y a de plus polluant. voilà. Non, on va continuer. Et tenez. Là, on va partir alors sur le bord de la route. Et quand la route pollue les champs, eh bien, l'INRA et Air Paris font mener l'enquête le long de l'autoroute A6.
Oui, dans l'Essonne, les chercheurs ont placé des plantes en pot perpendiculairement à l'autoroute. 70 pots de régras. Vous savez, le régras, c'est de l'herbe, grosso modo. Voilà. Le premier pot, le nez sur la circulation. La 6 est tout de même parcourue par 73 000 véhicules par jour.
Pas mal.
Et le dernier pot à 300 mètres du bitume. Et puis, on a mesuré les gaz polluants dans l'air et les métaux sur la végétation.
Karine Léger, d'Air Paris.
On a trouvé un impact de polluants gazeux comme le dioxyde d'azote jusqu'à 120 ou 200 mètres et on a trouvé un impact des polluants métalliques sur une trentaine de mètres pour le fer, voire juste quelques mètres de part et d'autre pour des polluants comme le zinc par exemple. Cette étude elle met en évidence effectivement qu'il y a une zone d'impact du trafic sur la pollution atmosphérique qui varie en fonction des polluants, qui reste inférieur à un certain nombre de seuils, notamment pour la consommation, mais qui pose la question d'une distance de sécurité par rapport à l'agriculture. Et donc, il serait une zone qui ne serait pas cultivée. Et quand l'INRA a posé la question à la fois aux agriculteurs et aux associations de protection de l'environnement, les agriculteurs estiment qu'ils ne peuvent pas prendre en compte le coût, à eux seuls, le coût de la mise en place d'une distance de sécurité, qu'en revanche, ça nécessiterait une concertation avec les acteurs impliqués. Et les associations environnementales se sont montrées plus focalisées sur des aspects sécurité, conditions de trafic et bruit que sur des aspects sécurité par rapport à des préoccupations alimentaires.
Alors, chère Nathalie, d'où viennent ces métaux qui se déposent sur les plantes ?
Eh bien, des parties mécaniques des véhicules. Par exemple, 60% des émissions de cuivre du secteur des transports proviennent de l'usure des plaquettes de frein.
Tenez, ces petits yodeleurs. Alors, je ne sais pas quoi faire le 23 septembre prochain. Je vais peut-être aller à la montagne avec vous.
Allez, on va aller nettoyer la mer de glace. C'est la 4e édition. L'an passé, une soixantaine de bénévoles ont ramassé plus de 2 tonnes de déchets. Vous rendez compte, abandonnés par les 50 000 touristes qui visitent chaque année le plus grand glacier de France. Alors, pour plus de renseignements, contactez le Club Alpin Français de Chamonix.
16 septembre, à l'aube, dans le pays du Bouchonnois, c'est l'ouverture de la chasse. Mais pas n'importe quelle chasse, celle de la galinette cendrée, une véritable passion pour ces hommes que nous avons suivis pendant 24 heures.
Moi je dirais que la chasse c'est l'esprit de camaraderie, quoi. C'est la fraternité dans l'effort contre la rudesse de Dame Nature.
Alors demain Nathalie, donc, c'est donc l'ouverture de la chasse dans la moitié sud de la France avec une opération séduction des chasseurs.
Oui, vous savez qu'ils ont perdu la moitié de leurs troupes en 30 ans et c'est pour relancer les adhésions que le président de la Fédération Nationale des Chasseurs lance une campagne de communication avec une affiche où l'on voit un jeune cadre dynamique en costume cravate avec un arc dans les mains. Le message, libérez-vous du quotidien, rejoignez-nous, libérez le chasseur, libérez le chasseur, Denis.
Bien sûr,
qui sommeille en vous.
Ouais,
Bernard Baudin est le président de la Fédération Nationale de la Chasse.
Le point négatif, c'est que nous perdons les adhérents. Il ne faut pas se voiler la face. Mais si nous continuons à être capables de faire venir à nous, non pas seulement les jeunes. Les jeunes, c'est une cible qui est assez difficile lorsqu'ils ne vivent pas, ils ne font pas partie d'une famille où l'on chasse. Un jeune qui est à Paris, qui n'a personne dans sa famille qui chasse ou dans ses amis proches, ne voit pas comment il va venir à la chasse. Donc, nous faisons toujours la formation sur les jeunes, nous incitons toujours les jeunes à venir. Notre cible, sont surtout maintenant aussi les urbains. C'est-à-dire que pour des raisons financières, pour des raisons de qualité de vie, pour des raisons environnementales, on a de plus en plus d'urbains qui vivent dans la campagne, dans l'arrière-pays. Ils ont une qualité de vie indéniable, mais ils peuvent ne pas avoir à leur disposition le même nombre de loisirs qu'ils avaient. Donc, ils peuvent venir à la chasse si on sait leur expliquer. Et c'est là où, cette année, on lance une campagne de communication sur 10 pour 1. Si chaque groupe de 10 chasseurs faisait venir à nous un chasseur, ce qui ferait rapidement 10% d'augmentation. Et donc, je vous dirais, accompagnez-moi et je serai capable de vous faire aimer la chasse.
Eh ben chiche, monsieur.
Oui. En tout cas, l'opération séduction est lancée. Mais pour Pierre Athanase, auteur du livre noir de la chasse qui vient de paraître, eh bien, ça a peu de chances de marcher.
Ces gens-là, ils vont chasser une fois, deux fois, et ils arrivent dans un milieu où on entend tellement de bêtises. C'est vrai qu'après, une fois qu'on a fait la partie de chasse, on rentre avec le faisan, le colvert ou le lapin, puis il faut le dépouiller, il faut le plumer. Et c'est vrai que ça, c'est pas vraiment drôle. Les gens savent pas vraiment faire, ça amuse pas vraiment. Et puis, ils rendent leur permis. Il y a eu déjà pas mal d'études qui ont été faites par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur ce sujet-là. On sait très bien que ça ne sert à rien. Les chasseurs essayent artificiellement maintenant de gonfler un petit peu leurs chiffres. Ils sont 1 200 000, ils répètent sans arrêt qu'ils sont 1 300 000, ils rajoutent 100 000 comme ça d'un coup. Il faut bien voir qu'ils ont perdu en 35 ans la moitié de leurs effectifs et que ça va s'accélérer. Les chasseurs sont une population très vieillissante.
Et le gibier, comment se porte-t-il? Qu'est-ce qu'il peut dire?
Eh bien, les chasseurs sont contents parce que le printemps chaud et sec a permis une bonne reproduction. Et cette année, ils osent même une question. Et si la chasse était une chance pour les espèces, même menacées? Écoutez Jean-Pierre Arnauduc, directeur technique de la Fédération.
La chasse, parce qu'on a trop l'habitude de la considérer uniquement sous son aspect prélèvement ou tableau de chasse, si vous voulez, mais la chasse c'est aussi une globalité où les chasseurs font beaucoup de choses à part chasser pour s'occuper des espèces, des soins aux espèces, l'aménagement de leurs habitats, etc. Et donc le bilan de ces deux affaires-là peut être positif pour les espèces elles-mêmes. Et on a de plus en plus de données maintenant d'études scientifiques qui montre, en faisant ce bilan-là, qui montre que dans des territoires chassés, les espèces peuvent se porter mieux, y compris les espèces non chassables, que dans les territoires protégés, sans chasse. Et de même, la même espèce qui est chassée dans un territoire peut se porter mieux que là où elle n'est pas chassée dans d'autres territoires. Exemple, le tétralyre dans les Alpes, où on montre que l'évolution des populations de tétralyre reproducteurs est plus favorable dans les territoires chassés que dans les réserves et les parcs nationaux dans les Alpes. Pourquoi? Mystère. Donc là, c'est un peu un appel aux scientifiques à creuser cette question, parce que sur les données, on constate que ça se porte mieux. On pense que c'est dû à l'action des chasseurs. Voilà ce qu'on constate. Expliquez-nous.
Alors évidemment, ça fait sourire les opposants à la chasse.
Oui, et puis j'avais Yves Pacalet donc la semaine dernière en Savoie qui connaît bien le problème du tétralyre. Actuellement, les populations sont en train de se casser la figure à vitesse vraiment grand V. Oui. Et donc il dit, bah, surtout arrêtez, ne tirez pas, vous chasseurs, au moins les tétralyres, parce que ça ne les aide pas du tout. Alors ça fait donc sourire, et ça fait sourire aussi Pierre Athanase.
La chasse en France, ça représente tous les ans 30 millions d'animaux qui sont abattus. Et cela sans les chasses commerciales, les chasses privées. 30 millions d'animaux, 5 millions de mammifères, 25 millions d'oiseaux. C'est énorme. Comment les chasseurs peuvent-ils nous faire croire qu'en tuant des animaux, ils sont plus nombreux? C'est vrai que chaque fois qu'on tue un tétralyre, un grand tétra, un cerf, c'est un animal de moins, mais c'est aussi un animal qui ne se reproduira plus. Des démonstrations comme ça, elles sont même pas dignes du café du commerce.
Et puis, pour faire le tour du sujet, qu'est-ce que j'entends? Encore une proposition de loi sur la chasse? On peut se dire qu'il y a peut-être des questions plus urgentes à régler, Nathalie?
Eh bien oui, le texte est au Parlement. Encore une loi, oui. Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération.
Tous les deux ans, il y a une loi chasse qui parle soit d'environnement, soit de ruralité, soit de chasse. Mais c'est tant mieux! On a besoin de simplifier la réglementation pour que les chasseurs puissent chasser tranquillement et surtout puissent s'occuper un peu plus de nature. C'est quand même bien.
Qu'est-ce que ça va changer cette loi exemple?
Il y a plein d'exemples. Au niveau de la fiscalité des zones rurales, les petits propriétaires qui chassent sur certains territoires vont pouvoir bénéficier de déductions de taxes parce qu'ils conservent leur marais au lieu de le transformer en champ de maïs. Ça, c'est très bien. Pour les gens qui ne chassent pas, il va y avoir une obligation de gestion de la grande faune sauvage et en particulier du sanglier. C'est-à-dire sur les gros territoires où on a interdit la chasse, aujourd'hui les collectivités, l'État ou les privés vont devoir gérer. Et ça, c'est très bien parce qu'il y a tellement de sangliers que ça pose beaucoup de problèmes, en sachant que les chasseurs payent l'intégralité des dégâts de sangliers aux agriculteurs.
Oui, il faut rappeler aussi que s'il y a autant de sangliers, c'est parce qu'on leur a donné à manger, que les chasseurs sont aussi un petit peu responsables de ça. Et il est vrai qu'à droite comme à gauche, eh bien la chasse, Nathalie, mobilise quand même tous les parlementaires.
Surtout avant les élections, Denis.
Ah bon, bon.
Mais dans cette proposition de loi, il y a tout de même quelque chose d'assez étrange. En ces temps de rigueur budgétaire et de chasse aux niches fiscales, Pierre Athanase.
De dedans, il y a entre autres à nouveau de la défiscalisation pour la chasse. Alors en ce moment qu'on nous parle énormément de recherche des niches fiscales ou qu'il va falloir supprimer, le législateur est en train de créer de nouvelles niches fiscales. Il y en avait déjà une en 2008 avec la loi Poniatowski où on a défiscalisé les chasses commerciales, c'est-à-dire que si vous êtes entrepreneur de BTP ou d'autres choses, vous achetez des parts de journées de chasse et vous les déduisez de vos impôts et vous offrez ça à vos clients, tout va bien. Et cette fois, on va aller un petit peu plus loin puisque les territoires qui vont être aménagés pour la chasse seront nets d'impôts. Donc là-dessus, on est vraiment maintenant dans la niche fiscale pour la chasse. C'est absolument incroyable.
Pierre Athanase est l'auteur de « Le livre noir de la chasse, massacre et abus de pouvoir ». C'est aux éditions Sang de la Terre.
Ah ben c'est sûr, faut dire que quelque part, la chasse, c'est une communion avec la nature, quoi. C'est un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume.
Et chère Nathalie, donc ça buzz aussi sur Internet, comme on dit, avec le jeu « Ça cache ton Alsace ».
Oui, lancé par Alsace Nature, une association de protection de l'environnement qui préfère prendre les choses avec humour et surtout dérision. Vous savez que pour la deuxième année, la zone Natura 2000 du Grand Ballon d'Alsace, c'est un paysage absolument merveilleux. Cette zone va être traversée par un rallye bruyant, polluant, évidemment pas compatible avec un milieu naturel très riche.
Ben non. Et donc le jeu consiste en quoi ?
Eh bien, vous êtes au volant d'une voiture polluante, évidemment. Vous devez émettre un maximum de CO2, écraser un maximum de grands hamsters, de lapins, écraser les vignes, percuter les cigognes pour gagner. En page de fin, le message n'est plus humoristique du tout. Je cite, pour certains, la destruction de l'Alsace, eh bien, c'est un jeu. Pour nous, sa protection est un devoir. Défendons une Alsace sans rallye.
Si vous souhaitez en savoir plus, le site saccage-ton-alsace.fr et c'est sur le site de CO2, mon amour. On termine avec la tête dans les étoiles.
Oui, c'est l'ouverture du concours Village Étoilé, organisé par l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne. Vous vous souvenez, nous en avions parlé l'an passé, en visitant l'une des communes qui avait été primée. Alors, il s'agit de récompenser les maires qui ont laissé tomber la nuit, qui ont décidé de ne plus éclairer leur ville, pour faire des économies d'énergie, bien sûr, mais aussi pour respecter le rythme de la nature et le chant des rapaces.
Nous aimons beaucoup. Ah oui.
Ah, quand même. C'est beau, hein ?
Il est là, et vous allez, vous, Nathalie, vous envoler, mais vous reviendrez dans cette actualité de l'environnement très prochainement. Allez-y, dans cette nuit, même à presque 15h, c'est des... Non, voilà, vous allez...
Je déploie mes ailes, au revoir.
Oui, voilà, c'est ça. Au revoir, Nathalie. Merci à Michel Thomas et Roland Maillet à la technique aujourd'hui, à Stéphane Combe, notre assistant, et à Fabrice Lègle qui réalisait cette émission. Anne Gouzon nourrit les sites de CO2 Mon Amour, émission que vous pouvez podcaster pendant une semaine et je pense réécouter pendant 4 semaines. Denis Chessou, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouvera. Bah tenez, je vous attends à la fête de l'Humain. Oui, absolument, à la Courneuve. Donc ce sera en direct la semaine prochaine, donc en direct de la fête de l'humanité. Et puis bah, si je vous retrouverai aussi dimanche avec après les petits bateaux avec l'Atulu mon petit loup 19h54 et dans quelques instants ce seront les liaisons heureuses de Colombe Schneck. Bon week-end à tous, il est 15h.